J'aimerais aujourd'hui vous entretenir sur la nécessité pour nous chrétiens d'être sages. Qu'est-ce que j'entends par être sage ? Ben, je vais vous donner une réponse ou des réponses. Être sage consiste à faire preuve de sûreté, à faire preuve de prudence, ça me plaît ça, à faire preuve de lucidité dans ses jugements et sa conduite. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui est modéré et qui agit avec bon sens à travers ses comportements et ses paroles. Jusqu'ici, tout va bien. Être sage, c'est savoir aussi prendre les bonnes décisions en fonction des différentes circonstances de la vie. La sagesse, elle rime avec la raison, elle rime aussi avec la réflexion, le discernement, le bon sens et même l'intelligence. Alors à l'inverse, eh bien le contraire de la sagesse, c'est la folie, la déraison, la bêtise, l'absurdité, la stupidité. Et j'ai été obligé de m'arrêter là et mettre des points de suspension parce qu'on pourrait rallonger la liste. Et je crois de tout mon cœur que nous avons tous besoin, les uns les autres, à commencer certainement par moi, eh bien de pouvoir réclamer, donc à la fin de cette année 2019, mais au départ de cette nouvelle année qui va commencer dans quelques jours, nous avons plus que jamais besoin de demander au Seigneur qu'il puisse remplir nos cœurs, nos vies de sa sagesse. Amen ou pas amen, frères et sœurs. Nous devons le réclamer, le rechercher la sagesse à cause de ses nombreux avantages. À nos avantages qu'elle nous procure. Juste deux exemples. On va commencer par deux exemples. Alors prenez des stylos et puis des feuilles parce que j'ai voulu vous faire plaisir ce matin. Il y a au moins une vingtaine de versets pour vous ce matin. Je suis convaincu que c'est la parole qui doit atteindre nos cœurs, qui doit arroser nos cœurs. Ce n'est pas les palabres ou les opinions. On a besoin d'écouter la parole de Dieu. Quand je pense que dans l'Ancien Testament, il passait presque la moitié de la matinée à pouvoir lire la parole de Dieu. Et l'autre moitié eh bien, servait à pouvoir se repentir, chercher la face de Dieu. Il faut laisser la parole de Dieu faire un impact dans notre cœur et avec douceur que nous puissions savoir eh bien, la recueillir, la recevoir. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10, il nous est dit « S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. » Autre exemple qui ne peut que nous encourager à rechercher la sagesse ce matin, Ecclésiaste chapitre 2, verset 13. « Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. » C'est pas rien. Seigneur, donne-nous cette sagesse. Et je comprends pourquoi le roi Salomon, en temps et honneur, a bien exprimé cette demande à Dieu le Père. « Accorde-moi de la sagesse pour savoir régner surtout le peuple d'Israël, et Dieu l'a exaucé. » C'est un fait, la Bible nous invite à acquérir de la sagesse. Des versets, il y en a plein. Proverbes chapitre 4, versets 7 à 9, par exemple. Proverbes chapitre 4, versets 7 à 9. « Voici le commencement de la sagesse. » Deux points. « Acquiert la sagesse. » Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la. Et alors elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Amen. Alors voyez-vous, donc ce matin, j'aimerais nous révéler trois bonnes raisons pour nous chrétiens de pouvoir rechercher à être sages. Est-ce que vous voulez connaître ces trois bonnes raisons ? Quelqu'un aurait dit non. Vous savez qu'on aurait fait quand même le partage parce que c'est, je crois, ce que Dieu a déposé sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Trois bonnes raisons donc d'être sage. La première, eh bien la Bible déclare que le sage, il se détourne du mal. Proverbes chapitre 14, verset 16. Voilà un verset clé. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Mais l'insensé, dans son arrogance, est plein de sécurité. Il va, il fonce, il joue avec le péché. Mais le sage, lui, il a de la retenue. Il y a, pour être plus explicite, le sage, il se tient sous ses gardes concernant le mal, concernant le péché. Lorsque Joseph, à un moment donné, fut dans une situation bien délicate, puisque à un moment donné, il était au service d'un certain Potiphar en Égypte, et la femme donc de Potiphar, à un moment donné, lui a fait des avances. Et vous savez que Joseph, à ce moment-là, était tenté de pouvoir commettre bien l'adultère. Mais Joseph a choisi, qu'est-ce qu'il a choisi de faire ? S'enfuir. Il n'a pas demandé son reste, hein, il a même laissé sa tunique. Hein. Mais il s'est enfui loin de cette femme, afin de ne pas commettre une telle abomination. Ça n'avait rien à voir avec de la lâcheté. Bien au contraire, ça avait à voir avec de la sagesse. Joseph savait que s'il restait dans une telle situation inconfortable, il allait finir par succomber. Vous savez, on n'est pas fait de bois. Et si on s'amuse à jouer avec le péché, et surtout devant des choses dont on a tendance à être si fragile, si faible, frères et sœurs, on va finir par succomber au péché, oui ou non ? La palisse n'aurait pas dit mieux. C'est pour cela, autre part, la Bible nous dit, par exemple, de fuir l'impudicité. Et si l'apôtre Paul nous dit de fuir l'impudicité, c'est parce que face à ce péché qui est si mauvais, si abominable, nous avons du mal à pouvoir résister. Le chrétien n'est ni un lâche, ni un téméraire face au péché. Et quand il faut le fuir, il le fait sur le champ. En fait, le sage, selon la Bible, est forcément une personne qui craint Dieu. Tournez-le comme vous voulez. Un homme sage, selon la parole de Dieu, selon la Bible, c'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un tel respect pour Dieu et les choses de Dieu, que dès qu'il voit le mal, il s'en détourne. Il a une profonde haine au-dedans de lui concernant tout ce qui peut s'appeler mal, de loin comme de près. Le sage aussi, selon la Bible, est aussi une personne qui est attachée à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous apprend à être sages. Qui nous apprend à être sages pour qu'en retour, nous puissions nous détourner jour après jour, alléluia, du péché et du mal. L'auteur du psaume 119 a dit une chose que j'aimerais rappeler à vos oreilles ce matin, psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez la relation de cause à effet ? C'est parce que je serre ta parole dans mon cœur que je me garderai de toute forme de péché. Il l'a dit aussi, l'auteur du psaume 119, au verset 163, la chose suivante. Je déteste le mensonge, au contraire, j'aime ta loi. Si nous aimons la loi de Dieu, forcément, nous détestons tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Je déteste le mensonge. Pourquoi ? Parce que j'aime ta loi. Ainsi, nous serons des chrétiens qui se détourneront du mal si et seulement si nous nous nourrissons de la parole de Dieu et si et seulement si nous cherchons bien sûr à la mettre en pratique. Un passage que j'aime beaucoup de Timothée, chapitre 3, verset 15 à 16, et l'apôtre Paul qui exhorte ce jeune serviteur de Dieu, Timothée, va lui dire « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre quoi ? Sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. » Verset 16 « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » C'est beau. Toute écriture est utilisée par Dieu pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre et pour nous instruire dans la justice de Dieu. Autrement dit, ces quatre actions sont là pour nous aider à être davantage et de plus en plus sages. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Une sagesse qui t'amène au salut de Dieu. Une sagesse qui t'amène à pouvoir haïr le mal et aimer le bien. Et tout ça, ça se produit par l'écoute, la méditation, mais aussi la mise en pratique de la parole de Dieu. Je voudrais juste faire une petite remarque, j'ouvre une parenthèse, mais que je vais très rapidement fermer. Une remarque que je fais avec vous ce matin. Faisons de la parole de Dieu la priorité des priorités dans notre vie. Apprenons d'abord à lire et à méditer la parole de Dieu avant, par exemple, de surfer sur Internet, sur les sites chrétiens. Avant peut-être même de recevoir quelques messages spirituels venant via Internet ou même par SMS. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais je crois que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'apprendre à écouter Dieu. D'apprendre à se placer devant la parole de Dieu, de la lire et aussi de pouvoir la méditer. Lire et méditer personnellement la parole de Dieu, cela doit être notre priorité. J'ai mis sur mes notes, lire et méditer personnellement la Bible, c'est apprendre à écouter Dieu, et je précise, sans intermédiaire, sans personne interposée. Parce que les SMS, il faut bien que quelqu'un puisse les mettre en place. Quelquefois, c'est même des choses, des moteurs de recherche, clac, clac, clac. Alors bien sûr, ça va toujours, à un moment donné, bien correspondre à une situation, etc. Mais on a besoin, sans intermédiaire, sans personne interposée, apprendre à écouter la voix du bon berger. Ne sommes-nous pas ces brebis ou non ? La Bible dit dans Jean chapitre 10, la brebis entend la voix du berger, il la reconnaît. Et ça, c'est un exercice. Prenons l'exemple, le petit oisillon, il est nourri au départ par ses parents. Mais à un moment donné, très rapidement d'ailleurs, les parents, qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire ? L'apprendre, oui, pour certains oiseaux, même le faire tomber, c'est le cas de l'aigle. Mais très rapidement, les parents vont chercher à apprendre à l'enfant à pouvoir se nourrir par soi-même. C'est même vital. C'est une question de vie ou de mort. On a besoin de pouvoir apprendre à entendre la voix de Dieu et par cela même recevoir la sagesse que Dieu veut nous accorder. Allez, je referme la parenthèse, j'ai dit ce que le Seigneur a placé sur mon cœur. Autre raison qui doit nous encourager à être sages, on vient de voir donc le sage, il se détourne du mal. La Bible dit aussi que le sage, il s'empare des âmes. Ah, j'aime ce passage. Proverbe chapitre 11 et le verset 30. Proverbe chapitre 11 et le verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'empare des âmes. La version Darby dit « Le sage gagne les cœurs ». Et Dieu nous appelle les uns et les autres à être des gagneurs d'âmes, gagneurs de cœurs. Et Dieu désire que nous gagnions les membres de nos familles. Il désire que nous gagnions peut-être nos amis, nos collègues de travail. Il désire aussi que nous puissions gagner même nos ennemis. Amen ou pas amen ? Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Quand on a compris l'objectif de Dieu, on ne voit qu'un seul ennemi devant nous, c'est le diable. Mais même notre ennemi plaise à Dieu si on arrive à le gagner pour la cause de Christ. Moi, je suis sûr que quand l'apôtre Paul n'était pas encore appelé apôtre Paul, quand il était appelé Saul de Tarse, je suis sûr qu'il y avait des groupes de prière qui intercédaient pour cet homme. Il était connu comme le loup blanc. Partout où il allait, il faisait des terreurs dans le milieu chrétien. Mais je veux croire qu'il y a eu des personnes qui ont persévéré, qui ont cru, qui ont été visionnaires, de ce que Dieu était capable de faire et de la puissance de Dieu. Et ces gens, ont eu gain de cause parce que, l'homme qui persécutait l'église de Jésus-Christ est devenu maintenant un puissant apôtre qui jusqu'à maintenant nous fait du bien. Dieu peut changer le mal en bien. Mais pour être des gagnants d'âme, nous avons besoin de nous laisser conduire par la sagesse de l'Esprit de Dieu qui est venu habiter nos vies d'ailleurs. C'est l'apôtre Paul qui dit encore à ce jeune serviteur de Dieu, Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 7, la vérité suivante. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, mais aussi un esprit de sagesse. L'esprit de Dieu qui est venu habiter nos vies, qui a fait de nos corps son saint temple, nous accorde un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on le voit au travers de ce courrier qui est adressé à ce jeune Timothée, que ce dernier était quelque peu timoré, très, très hésitant. Et là, l'apôtre Paul l'encourage à dire, mais tu as la puissance du Saint-Esprit avec toi. Et cette puissance de Saint-Esprit te donne à être rempli de sagesse pour savoir être ce puissant gagnant d'âme dans ta génération. Étienne, par exemple, avait cet esprit de sagesse. Il avait cet esprit de sagesse au-dedans de lui et aucun de ses adversaires ne pouvait lui résister. Un exemple, Actes chapitre 6, versets 9 et 10. Regardez ce qu'il est écrit. Actes chapitre 6, versets 9 et 10. Quelques membres de la synagogue dites des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Ils ont dit, allez, on va tous en force, on va le bloquer ce petit-là. Et donc en parlant d'Étienne. Mais regardez ce qu'il est dit au verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et on a besoin de ça, frères et sœurs. Où les gens sont de plus en plus compliqués, où les gens ont la parole facile, que nous puissions avoir l'esprit de sagesse pour savoir répondre. Même la parole à propos qui sera interpeller leur cœur. Paul aussi agissait avec sagesse, avec tous ceux à qui il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Il le faisait avec une stratégie que lui inspirait toujours l'Esprit de Dieu. Un passage aussi que j'ai voulu placer devant vos yeux, 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 19 à 22, regardez ce qu'il est dit. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. » Afin de quoi ? De gagner le plus grand nombre. Et il explique. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Vous avez vu la stratégie que l'apôtre Paul avait ? Il était animé de l'Esprit de Dieu. Il se faisait tout à tous. Avec les Juifs, il agissait selon les usages, les us et coutumes, de la tradition et autres, pour les aborder. Il y a une stratégie. Avec ceux qui étaient sans loi, il faisait de même. Un exemple, on a fêté la naissance du Seigneur Jésus dimanche dernier. Mais on ne fête pas Noël, nous. N'allez pas, après le culte, me souhaiter joyeux Noël. Parce que nous, on n'a rien à voir. On a compris que la fête de Noël est une fête païenne au départ. Mais toute circonstance est bonne pour annoncer l'évangile. Toute circonstance est bonne pour rappeler, que nous pouvons célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est même chaque jour qu'on pourrait remercier Dieu parce qu'un jour, il est né. Alléluia. C'est ça qui nous intéresse. Et d'ailleurs, au cœur même d'une fête païenne, qui est la fête de Noël, le Seigneur, il agit quand même. Ici, dans cet auditoire, dimanche dernier, sans donner de nom, un couple a été touché. Et quand ils sont repartis dans leur ville, puisqu'ils n'étaient pas d'ici, ils ont décidé de suite de pouvoir prendre contact avec l'église qui était tout près de chez eux. Et je crois, il me semble, ce matin, ils sont au culte. Frères et sœurs, on est compliqués. Hein, mais on a besoin de comprendre que le Seigneur a des stratégies. Et il a aussi sa sagesse, qui quelquefois nous dépasse. Et la sagesse de Dieu, bien sûr, est quelquefois folie pour l'homme. Comment être sauvé au travers d'une croix qui a été érigée ? Mais les Juifs, au départ, donc à l'époque, ne comprenaient pas ce qui se passait là. La croix, c'était une abomination. D'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, il nous disait que tous ceux qui étaient pendus sur un bois étaient maudits. Mais Jésus s'est fait malédiction pour nous. Le Seigneur, il brouille les cartes, excusez-moi l'expression. Et il a une stratégie pour la ville d'Istre. Il a une stratégie pour chacun d'entre nous. On essaye de convaincre même nos enfants. On les force, on les... Frères et sœurs, soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Il va nous donner des stratégies. Il va nous donner à être des gagneurs d'hommes, gagneurs d'âme, gagneurs de cœur auprès de nos enfants, auprès de nos conjoints, auprès de nos collègues et même, je le dis encore à nouveau, auprès de nos ennemis. Mais est-ce que nous écoutons ? C'est clair, l'année prochaine, on va continuer ce que nous faisons les dimanches, les deuxièmes dimanches de chaque mois. Et je veux croire que Dieu va nous donner d'autres stratégies. On a pris une stratégie, c'est celle du sondage. On va au-devant des gens, et on leur parle du Seigneur, on leur questionne pour leur remettre la Bible. Mais viendra le temps où nous nous appliquerons de plus en plus, non pas qu'on le fait déjà, on le fait, oui, on commence déjà à le faire, mais on va le faire davantage. On va s'arrêter auprès des gens, on va prier dans la rue avec les gens, on va voir la gloire de Dieu. Le Seigneur, il a une stratégie et il nous demande de sortir de toute forme de timidité pour nous laisser, alléluia, conduire par l'esprit de sagesse qui est venu habiter nos cœurs. Nous avons besoin d'être ces gagneurs d'âme pour Christ, des gagneurs d'âme dans notre génération, mais pour cela, nous avons besoin d'être remplis, bien sûr, de la sagesse divine, de la sagesse d'en haut, comme l'explique l'apôtre Jacques. Regardez dans Jacques chapitre 3, verset 17, qui explique bien la teneur de cette sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse de l'Esprit de Dieu. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique. On n'est là pas pour entrer dans des conflits, pour créer des luttes et des combats. Elle est pacifique. Elle est modérée. La maîtrise de soi. Elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est au contraire exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est cette sagesse-là qui nous intéresse. C'est cette sagesse d'en haut dont on a besoin afin de pouvoir avancer et voir la gloire de Dieu parmi nous. Soyons, frères et sœurs, des gagneurs d'âme pour Christ en étant remplis d'un esprit de force, c'est vrai, d'amour, c'est vrai, mais aussi de sagesse. Dernière raison qui ne peut que nous encourager à rechercher à être sage, la Bible déclare aussi que le sage, il connaît le temps et le jugement. On a vu premièrement, donc le sage se détourne du mal. On vient de voir, le sage s'empare des âmes, il devient gagneur des cœurs, le gagneur d'âmes. Eh bien, la Bible dit aussi que le sage connaît le temps et le jugement. Ecclésiaste chapitre 8 et le verset 5. Ecclésiaste chapitre 8 et le verset 5. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît quoi ? Allez, aidez-moi. Connaît le temps et le jugement. Parmi les 12 tribus d'Israël, il y a une tribu qui se démarque d'une façon particulière, c'est la tribu d'Issacar. Et cette tribu possédait une certaine réputation de sagesse. La tribu d'Issacar fut l'une des premières tribus du peuple d'Israël qui a reconnu au travers de la personne de David le futur roi que Dieu allait mettre en place en remplacement à Saül qui avait été rejeté par Dieu. Et parlant de cette tribu d'Issacar, il nous est dit dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, la vérité suivante. Des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Donc, eh bien, cette tribu d'Issacar était spéciale. Ils arrivaient à discerner eh bien, les temps et les circonstances, le temps et les jugements concernant le peuple d'Israël. Et ils sentaient, ils étaient avant-gardistes eh bien, par rapport au fait de pouvoir accueillir, d'embrasser la cause eh bien, de notre ami David pour remplacer Saül. Et à plusieurs reprises, la Bible ne le précise pas, mais à plusieurs reprises, eh bien, ces gens ont manifesté une forme de sagesse. Et c'était pareil pour le Seigneur Jésus. Durant son ministère terrestre, Jésus avait beaucoup de sagesse. Il a toujours été en phase avec l'horloge divine. Excusez-moi l'expression. Jamais en retard, jamais non plus en avance. Il est à l'heure. Et je vous le dis, quand il est arrivé 4 jours après qu'on ait enseveli Lazare, il était à l'heure. Parce qu'il avait expliqué à ses disciples qu'il allait manifester la gloire de Dieu. Que eh bien, ce qui arrivait eh bien, à Lazare n'était pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Il l'a rappelé à Marthe. T'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Et ils ont vu le miracle de Dieu ce jour-là. Oui, le Seigneur a été sensible eh bien, au temps et au jugement, aux circonstances. Alléluia qui l'entourait. Regardez dans Jean chapitre 13, verset 1. J'aurais pu prendre d'autres passages, mais celui-là est intéressant. Avant la fête de la Pâque. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, qu'est-ce qu'il fit ? Il mit le comble à son amour pour eux. Constamment, il savait ce qu'il attendait. Et sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, qu'est-ce qu'il fait ? Il met le comble à son amour pour ses disciples, il fait eh bien, le lavement des pieds pour chacun de ses disciples, il institue et donc la Sainte Cène, et il sait que eh bien, dans quelques heures il va être arrêté, mais c'est extraordinaire. Et on a besoin aussi eh bien, d'avoir cette révélation des temps et des circonstances, des temps et des jugements. Avons-nous pris conscience dans quel temps nous sommes, frères et sœurs ? Avons-nous aussi réalisé que le jugement de Dieu arrive sur cette terre et va s'abattre sur cette terre ? Avons-nous compris ce que la Bible dit, que ce monde est réservé pour le feu? Est-ce que vous savez que le monde est réservé pour le feu? La Bible dit, c'est dans l'épître de Pierre, la terre a été détruite une première fois par le déluge. Mais Dieu s'est promis de ne plus le détruire par le déluge. D'ailleurs, il a montré cette alliance par l'arc-en-ciel, oui. Mais il a dit que cette fois-ci, il détruira une fois pour toutes ce monde corrompu et le détruira par le feu. Et on le voit comment les choses s'accélèrent et se préparent. Tout le monde est armé pratiquement de la bombe atomique. Les choses ne vont pas en s'arrangeant. Je ne veux pas être un prophète de malheur ce matin. Mais c'est juste la réalité parce que Dieu nous a prévenus d'avance. Mais ce monde sera détruit pour considérer ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre que Dieu a préparée pour tout son peuple, pour ceux et celles qui auront placé leur confiance, alléluia, en lui. On a besoin de considérer que nous n'avons pas à miser sur cette terre. On n'a pas à semer sur cette terre. Notre semence, nous voudrions la placer dans la cité céleste que Dieu a placée pour nous. Que d'énergie pourtant et de temps que nous dépensons à travers des choses vaines, futiles. Quelquefois, on arrive même à gaspiller notre temps au lieu de le racheter, comme dit l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous serons, frères et sœurs, des personnes sages si nous nous appliquons à nous affectionner plutôt aux choses d'en haut. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins à cette terre. Nous sommes que de passage, frères et sœurs. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est bien de pouvoir placer quand même des projets, de pouvoir faire des choses. Mais avant tout, notre cœur est dans le ciel. Nous avons les pieds sur terre, mais notre cœur est déjà dans le ciel. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et il viendra sous les nuées à bien prendre ceux et celles qui auront aimé son avènement. Et on a besoin d'aimer l'avènement du Seigneur. Et comment on va lui montrer qu'on aime son avènement? En nous dépouillant des œuvres des ténèbres. On a besoin de marcher toujours et encore sur le chemin de la sanctification. Tout au long de cette année, nous avons parlé de sanctification en long en large. On a besoin de se dépouiller. Et l'année prochaine, il y aura un autre thème que Dieu a placé déjà sur mon cœur. Mais croyez-moi, en filigrane, on aura besoin encore et encore de continuer à se sanctification, de pouvoir se sanctifier. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14, on a bientôt terminé. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et au contraire, revêtons les armes de la lumière. Verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Tout est dit dans ces quelques versets. Voilà. Voilà le temps qui est devant nous. Et il s'accélère. Les agitations dans ce monde nous montrent que les choses se bousculent et Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Et le sage connaît le temps et le jugement. Ce n'est pas un temps où on a besoin de se divertir. C'est un temps où on a besoin de chercher plus que jamais le Seigneur. On a besoin de vaquer à la prière. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Alors que dire en conclusion? Il y avait bien sûr encore d'autres raisons qui pourraient nous inciter à rechercher la sagesse. Allez, quelques exemples. Proverbes chapitre 16, verset 22 par exemple. La Bible dit « La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. » Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Un autre passage, Ecclésiaste chapitre 7, verset 19. « La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. » Vous vous rendez compte? On a besoin d'être sage pour savoir comment contrecarrer l'ennemi, comment combattre ces puissances peut-être qui sont là et qui agressent notre famille. Mais en conclusion, je terminerai par cela, je dirai simplement que nous avons tous besoin, les uns les autres, de sagesse. Pour évoluer bien sûr dans ce monde, de manière générale, mais de sagesse aussi dans notre vie chrétienne, dans notre vie personnelle, dans notre marche avec le Seigneur. Nous avons besoin de sagesse dans nos rapports avec les membres de nos familles, dans nos relations horizontales avec notre prochain, quel qu'il soit. On a besoin de sagesse pour savoir comment aborder nos enfants, comment aborder notre conjoint, comment aborder nos parents, comment aborder le prochain et même notre ennemi. On a besoin de sagesse dans notre vie spirituelle pour comprendre et surtout mettre en pratique la parole de Dieu. Or, la bonne nouvelle que le Seigneur nous rappelle ce matin, c'est que lui, il est disposé à pouvoir accorder la sagesse à ceux et celles qui le lui demandent. Regardez, et on va terminer par ce passage, Jacques chapitre 1, verset 5. Et heureusement qu'il est là, ce passage. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et même sans reproche, et alors, elle lui sera donnée. J'ai envie de nous dire, et si on lui demandait ce matin qu'il nous remplisse de sa sagesse, alors on va faire quelque chose. Ceux, celles qui reconnaissent qu'ils ont besoin de sagesse, qui se lèvent, comme moi-même je suis déjà debout, et ensemble on va prier le Seigneur pour qu'il nous revêt de sa sagesse. Seigneur, tu es là présent. Et Seigneur, Père mon Dieu, Seigneur, à la fin de cette année 2019, tu nous invites à être des hommes et des femmes qui recherchent la sagesse. Et pas n'importe laquelle, pas la sagesse des hommes, mais la sagesse d'en haut. Celle qui est pure, qui est pacifique, celle qui est modérée, celle finalement qui vient de toi, celle qui est en phase avec ton amour. Celle qui va agréer et qui va satisfaire ta volonté. Seigneur Père, je crois que nous avons tous besoin de ta sagesse, d'une manière ou d'une autre, dans une circonstance ou une autre. Et moi le premier, j'ai besoin de ta sagesse. Et Seigneur, nous venons de lire un magnifique passage. Et par ta parole, tu t'engages. Par ces paroles merveilleuses, Seigneur Père mon Dieu, oh, tu nous mets au défi de pouvoir te demander la sagesse. C'est ce que nous faisons ce matin. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous la sagesse au travers de ces temps de fête. Accorde-nous la sagesse au travers de ces vacances qui commencent. Accorde-nous cette sagesse pour savoir comment agir. Comment, Seigneur, réagir. Comment, Seigneur Père, parler. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous de la sagesse. Tu dis toi-même que, Seigneur, la mort et la vie sont, Seigneur, au pouvoir de la langue. Seigneur, je t'en supplie, multiplie une garde aux portes de nos lèvres. Donne-nous de la sagesse dans nos propos, dans nos paroles, afin que nous ne blessions point, afin que nous faisions point de mal, mais qu'au contraire, que par nos bouches, que par nos vies, nous puissions produire la vie. Seigneur, je t'en supplie, remplis-nous de ta sagesse. Tu nous as encouragés à pouvoir la demander et tu as dit que tu l'accorderais à ceux qui te le demanderaient et tu le ferais sans reproche, sans condition. Seigneur, nous le croyons, tu nous l'accordes maintenant afin que nous puissions, Seigneur, réjouir ton cœur, afin que nous soyons, Seigneur Père, un peuple qui est sage, un peuple qui t'aime, afin que nous puissions, Seigneur, aller de l'avant. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, Père, pour la seule gloire de ton nom. Amen.